avec le soutien de Sabam for Culture.
Les jours sur ta planète, à respirer ton air, nos plans sur la comète, partis dans l'atmosphère, quand la vie sur Terre n'avait rien de mieux, juste une planète bleue, sans penser aux adieux. Les jours sur ta planète, j'en revois chaque instant, je refais la route à l'envers, comme si c'était hier. Et je n'oublierai jamais les jours sur ta planète. Mais comment revenir en arrière? Personne n'a jamais pu le faire. Et ces larmes dures comme de la pierre, cachées pendant des millénaires. Les jours sur ta planète, plus jamais rien ne s'arrête. Le temps qu'on a passé à ne pas le compter est une éternité. Et je n'oublierai jamais quand il pleut dans ma tête, et je n'oublierai jamais les jours, et je n'oublierai jamais quand il pleut dans ma tête, et je n'oublierai jamais les jours.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Soundtrack of My Life sur Radio Rectangle. Nous écoutions « Mes jours », chanson bouleversante de Plastic Bertrand, tirée de son dernier album et dixième album studio, « L'expérience humaine ». Plastic est notre invité et ça fait très plaisir. Bonjour Plastic Bertrand.
Bonjour, bonjour Luc.
Alors oui, on aurait pu lancer l'émission par « Sale plane pour moi » ou « Tout petit la planète », mais on se fait plaisir avec ce titre qui est l'un de mes préférés.
Bah, ça me touche parce que c'est quelque chose de très personnel. Hein.
Oui, voilà, c'est vraiment une autre facette de Plastic Bertrand qu'on soupçonne moins, celle du plastique plus mélancolique, plus personnel, ouais, plus introspectif. C'est un peu le but de cet album, « L'expérience humaine ».
Bah, l'album, en fait, je me sers un peu d'un avatar, donc on regarde la pochette, qui est très, très... Qui est moi, mais qui n'est pas moi. Mais cet album parle de moi, mais je suis quelqu'un d'assez pudique. Contrairement à ce qu'on croit, on a toujours l'impression que je suis très, très, waouh, comme ça, tout le temps. Non, j'avais envie dans cet album de me poser, mais j'avais besoin aussi de peut-être pas me cacher, mais d'employer une voix pour dire vraiment ce que ma sensation d'être sur Terre et ma sensation peut-être de la quitter, de la voir avec un. Avec du recul, et j'avais besoin de ce côté avatar pour le faire, ce qui me permet d'être très libre dans cette chanson. Elle est très particulière dans l'album, puisque tout l'album qui a été produit par Dan Axman est très électro, vraiment avec tous les codes de l'électro des années 80. Celle-ci, elle est pratiquement presque comédie musicale, mais volontairement, quoi. Il y a un côté grandiloquent, mais un peu à la façon de... parfois de Queen ou de Bowie qui font parfois quelque chose de l'opéra un peu vraiment amusant, quoi. À part que chez moi, c'est pas amusant parce qu'on parle de choses très très profondes, mais je me suis servi de codes comme ça pour dire des choses vraiment qui m'appartiennent vraiment.
C'était le moment de le faire, de l'exprimer.
Oui, parce qu'on ne sait jamais ce que le futur nous réserve, surtout qu'il y en a plus derrière que devant. Mais surtout, je pense que l'album, il est positif. Hein.
C'est il y a pas, plein de lumière, oui, c'est clair.
C'est pas parce que je dis des choses avec, qui sont très personnelles, qui sont peut-être plus sensibles que d'habitude. Comment te dire ça, c'est personnel, mais c'est pas triste, c'est pas angoissant, c'est juste. Et même au bout de la chanson, ces jours, je les ai beaucoup aimés, quoi. Donc, c'est plutôt encore positif, mais c'est ma nature d'être positif.
Oui, on le voit. Alors, maintenant que la bulle de la culture s'ouvre à nouveau après cette longue pandémie, agenda hyper chargé pour Place Libre France, ouais. C'est difficile de vous avoir ici. Il y a la tournée années 80 qui fait un carton.
Alors ça a redémarré, mais c'est incroyable.
On voit les images sur Facebook des concerts en France, c'est hallucinant. On en parlait
mais
tout à l'heure.
Ça me dépasse complètement.
Plein de jeunes à vos concerts, plein de jeunes. Il y a la tournée électro en formule trio, je pense,
c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est parti en fait de l'album. L'album, au départ, on voulait faire un très gros spectacle avec mise en scène. Vraiment, imaginez un gros truc, avec la pandémie, ça n'a pas été possible. Mais on avait vraiment envie d'avoir cette facette électro qui est très importante, qui a toujours été présente dans ma carrière depuis tout petit de la planète et avec plein de sons comme ça. Et je voulais vraiment revenir sur scène avec ce son électro et avoir m'amuser aussi à tordre un peu les chansons un peu plus punky comme ça plane revenir avec un son avec ce son électro. Donc on se retrouve dans une formule très très musicale, mais vraiment pas avec le cliché rock'n'roll. Basse, batterie, guitare. Vraiment, il y a un guitariste et un synthé et un claviériste extraordinaire d'ailleurs. Et ça va peut-être surprendre les gens. Moi, ça m'amuse terriblement parce que c'est quelque chose. J'aime bien le grand écart entre le format rock'n'roll et puis le côté vraiment complètement électro. Ça m'amuse de ne pas me ressembler en fait.
Exactement, se réinventer aussi. Oui. Il y a eu cette date particulière, le vendredi 22 avril, au Cirque Royal, un concert caritatif de vos initiatives pour l'Ukraine. On rappelle, Plastique, que vous êtes né un 24 février, un 24 février 2022 qui a sonné différemment.
Mais c'est pas possible. Vraiment, dans ma vie, il y a des dates clés comme ça. Ouais. Et puis le 24 février, c'était mon anniversaire. Et puis, évidemment, c'est le début de la guerre, de l'invasion de la Russie en Ukraine. Et incroyable, quoi. Moi qui étais très loin de mes racines ukrainiennes, parce que ma maman est ukrainienne, moi qui étais très très loin de ça, qui n'avait pas besoin en fait de raciner. On retrouve cette idée aussi dans l'album L'Expérience Humaine. Ah ben, là, avec ce 24 février très particulier, je me sentis vraiment obligé de faire quelque chose. J'ai senti, mon sang n'a fait qu'un tour, quoi. J'ai senti vraiment que mes racines, j'en avais besoin. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais je suis né quelque part, enfin... En tout cas, ma mère est née quelque part et elle m'a donné beaucoup de choses de là-bas. Mais j'ai dû avoir ce flash et cette horrible nouvelle de la guerre qui se déclarait en Ukraine pour comprendre ça, quoi. Et là, je me suis vraiment senti, mais évident qu'il fallait faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester les bras ballants comme ça. Non, il fallait faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a monté avec Thélinder, mon manager. On a décidé de faire vraiment un spectacle. Et puis, quel spectacle, parce qu'on a très très peu de temps pour le monter. Et comme j'étais en tournée avec la tournée des années 80 en France, on a pris tout ce spectacle et puis on l'a tordu un peu, on l'a un peu remis dans l'optique de ce spectacle pour l'Ukraine. Et on a ajouté des invités belges aussi, comme Philippe Lafontaine, Benny, Salvatore Adamo. Enfin, et on a un peu trafiqué le spectacle pour qu'il soit vraiment cohérent.
C'était très festif, mais il y avait beaucoup d'émotions.
C'est pas facile à faire de faire un spectacle festif sur un fond de guerre, mais c'est ce que je voulais faire. En fait, je voulais donner tort à Poutine en disant nous, on a de la force et on va en donner aux Ukrainiens.
Et ça a rapporté ?
Alors, on est très fiers, quoi. Ça a rapporté 80 000 euros. Et ça, c'est notre fierté à nous.
C'était archi complet.
C'était blindé.
Mais félicitations. Avant ces concerts-là, avant l'expérience humaine, avant Sa Plainte pour moi, même avant les groupes punk, il y a eu un premier 45 tours, c'est celui-là. The Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, premier 45 tours que vous achetez, plastique, où ça alors et pourquoi
pas, alors que j'ai pas acheté, que j'ai piqué.
Ça m'étonne pas.
Mais évidemment, parce que, évidemment, on est en 65, 66, j'ai 11, 12 ans, quoi. Et avec mes copains, évidemment, pas question d'acheter un disque, c'était déjà le côté un peu rebelle. Et puis, cette musique, enfin, ce titre, I Can Get No Satisfaction, c'était évident qu'on pouvait pas aller basiquement acheter un disque. C'est parti de notre révolte, j'étais en plein dedans, quoi. 11, 12 ans, tu commences à te rêver, tu commences à savoir ce que tu veux faire de ta vie, enfin, plus ou moins, en tout cas, ce que tu veux pas faire. Et c'est ce côté rebelle, bon, les Stones, c'était vraiment ce qu'il incarnait le mieux, c'était l'état d'esprit dans lequel on était, quoi. Mais c'était une bande de gosses qui piquaient des disques dans les magasins, c'était même pas méchant, quoi. C'était juste, il fallait le piquer, quoi, un truc comme ça.
Alors, on va rester dans le classique rock en invoquant un autre hymne à la jeunesse, un autre hymne à la rébellion, My Generation des Who, morceau qui vous a donné envie de faire de la musique, ça a servi de déclencheur.
Oui, en fait, j'étais déjà à l'académie de musique. Hein. J'étais déjà, depuis que j'ai 8 ans, je fais des cours de percussion, de solfège, j'étais à l'académie de musique. Mais c'est vrai que c'est surtout le jeu de Keith Moon, le batteur des Who, qui m'a donné plus que l'envie, qui m'a... J'étais persuadé d'avoir trouvé la bonne voie pour moi. Il fallait que je sois un batteur et un batteur de rock et qui tue, quoi. Et puis, on est toujours dans ce même trip de rock'n'roll, de rébellion, parce que j'ai une douzaine d'années et j'ai envie de quitter la douceur de cocon familial où on écoutait du Claude François, et j'ai envie de faire l'inverse, évidemment.
Voilà, des parents. Alors,
et c'est ça qui est génial, parce que à l'époque, les mômes, on avait envie de faire quelque chose de différent des parents. Alors, je trouve que ce qui m'ennuie, moi, je suis pas passéiste, mais ce qui m'ennuie un peu aujourd'hui dans l'époque qu'on vit, c'est qu'il y a plus cette rébellion. On a envie de ressembler on a plutôt envie de ressembler à ses parents et de gagner de l'argent, machin, mais on pense pas du tout à faire autre chose, à bousculer les choses. Il y avait ce côté vraiment. Nous, on avait envie de faire changer la société, de bouger la société avec 68 qui est arrivé dans cette voie-là, hein, très très vite après. Mais on avait ça en tête, faire une autre société. Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la plupart des gens très jeunes, ils n'ont pas tellement envie de changer. Ils ont plutôt envie de continuer ça et de gagner beaucoup d'argent. Je les vois plus comme ça. Sauf, et heureusement que ça existe, qu'il y a quand même un combat qui est très important, c'est l'écologie, quoi. Alors, heureusement qu'il y a ce combat-là, parce que sinon, je trouve qu'on était vraiment très, très mal partis. Et ce combat de l'écologie est très important pour moi aussi, même si je m'appelle Plastique Bertrand. Mais le Plastique Bertrand, ça veut dire aussi que dans les années punk, on se souciait déjà de la société de consommation, on trouvait qu'on consommait trop, et c'était déjà... souligner ce côté de surconsommation et cette envie de changer. Pour moi, il y a une espèce de continuité là-dedans. Il y a pas de, j'ai l'impression d'avoir le même chemin qu'avant en m'appelant Plastique Bertrand aujourd'hui.
Et il y avait toute la réflexion sur le nucléaire qui est arrivée dans les années 70 et tout. Et c'est vrai que plusieurs chanteurs, vous n'êtes pas le seul, il y avait un engagement par rapport à ça. On va écouter The Who, My Generation.
Talking about my generation,
just because we get around.
Talking about my generation,
things they do look awful.
Talking about my generation,
I hope I die before I get old.
Talking about my generation,
just my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say.
I'm
not trying to cause a big sensation.
I'm
just talking about my generation. What we all
I'm
trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.
Radio Rectangle, Soundtrack of My Life, après My Generation des Who, vous avez bien sûr reconnu David Bowie, Space Oddity, influence majeure pour Plastic Bertrand. Bowie a compté beaucoup pour vous et compte encore beaucoup pour
vous. Ah oui, pour moi c'est l'artiste phare, c'est l'artiste qui était indispensable à ma vie, parce que c'est sûr que la façon dont il a abordé ce métier en créant des personnages... C'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Bon, c'est qu'il était mime et qu'il avait envie de faire plein de choses, et puis qui tuait lui-même ses personnages. C'est incroyable, quoi, cette force qu'il avait en lui de créer des choses et puis de les casser pour faire autre chose. Moi, c'est cette façon de faire qui me touche terriblement, parce que je dirais même que Plastique Bertrand, c'était presque un personnage, mais qui a tellement eu d'impact avec sa plane pour moi dans le monde entier. J'ai pas pu quitter tout ça pour m'appeler autrement, etc. Mais j'aurais bien voulu être Ziggy Stardust et changer de nom.
Caméléon.
Et complètement ouais. Caméléon. Et ça, la réussite de Bowie, c'est ça. C'est qu'il est parvenu à faire ça, de se réinventer à chaque fois. Et même si plus tard, il a gardé son nom de David Bowie, mais je pense que l'idée de départ, c'était de jouer des personnages qui s'appellent chaque fois différemment. Moi, ça m'aurait vraiment séduit complètement.
Il y a eu un rendez-vous manqué avec Bowie, c'est ouais, ouais. un des plus grands regrets artistiques de la carrière de Plastic Bertrand, expliquez.
Ouais, alors ça se passe, on est dans les années 80, 90, 90 je crois, je ne sais pas trop, je ne sais plus très bien, peut-être 90 même. Et j'ai un coup de téléphone de la BBC en disant que Monsieur David Bowie aimerait faire un duo avec moi. Et là, je capote, comme on dit au Québec, je capote complètement. Et je deviens fou. Et puis, j'avais un contrat avec la RTBF et je jouais avec mes musiciens live pour une émission de la RTBF à Liège. Et donc, c'était très mal barré, parce que vraiment, j'ai eu vraiment des menaces graves en disant « si tu viens pas l'émission, c'est pas possible ». Mais j'ai qu'une parole, donc j'ai fait l'émission. Mais ce qui était génial, c'est que la BBC et tout le management de Bowie ont fait l'impossible pour que je fasse l'émission. Ils m'ont envoyé un hélico. On tournait à l'RTBF à Liège. Il y a un
héliport.
Un héliport ouais, juste à côté. Donc c'était possible. Et au dernier moment, on a perçu l'autorisation de redécoller. Donc, parce que c'était la nuit, on ne pouvait pas traverser la Manche la nuit. C'était trop tard. Donc on n'a pas fait ce duo. Je suis devenu complètement cinglé. Mais j'ai eu la chance de le retrouver plus tard. Ou pas très longtemps après d'ailleurs, donc c'était 82 et donc, non j'ai retrouvé parce que ma maison de disque a eu la bonne idée de ressortir une version de Stop ou Encore aux États-Unis qui était un gros tube aux États-Unis, ouais. Lisa Plane et Stop ou Encore, et ils ont ressorti un maxi remixé par un très grand DJ, avec l'autre côté il y avait 4 people de Bowie, ce qui fait que je les rencontrais à New York à ce moment-là parce qu'on a fait un peu de promo ensemble pour ce disque.
Alors, Metallica, quand ils viennent jouer au Stade Roi-Baudouin, ils reprennent Plastic Bertrand.
Mais quel bonheur, ouais.
Cure, qui vient faire un concert showcase à la baie. Ouais, ils invitent une personnalité belge, ouais, c'est Plastic fou. Bertrand. Ouais.
Mais
c'est quand même incroyable.
C'est incroyable. On écoutait, rajouter encore une petite couche, on écoutait les Who tout à l'heure. Faut quand même dire que Pete Townshend, il a dit que sa plainte pour moi était une des plus grandes chansons de tous les temps. Hein, il a dit ça. Hein. Donc, les Anglais m'ont toujours adoré. Et je me souviens avoir fait beaucoup d'émissions de Top of the Pops à Londres et je voyais les gens là-bas. Et puis, disons que les artistes anglo-saxons m'ont plus aimé que les artistes français qui me voyaient plutôt comme un concurrent, quoi.
Alors, une question encore sur Bowie. L'expérience humaine réalisée avec Dan Laxman de TEDx, vous l'avez évoqué. Il y a quand même quelques influences Bowie qui sont parfaitement assumées. On peut penser à l'eau dans les sons.
Complètement, mais Bowie restera toujours. Même si je vais pas, si je le veux pas, c'est naturellement que je vais vers lui. Et puis il y a aussi des influences que Bowie lui-même a eues. Je pense même dans Space Oddity, il y a des influences des Bee Gees. Parce qu'il est parti d'une chanson des Bee Gees aussi. Moi, dans mon album L'Expérience Humaine, j'assume complètement ces influences-là. Je pousse même le côté pour montrer quelles sont mes influences. C'est un peu mon Graal. Tous ouais. les artistes dont je fais référence dans cet album-là, c'est vraiment tous les artistes que j'aime vraiment. Et ça rejoint souvent, et ça croit souvent la route de Bowie.
Alors, de Bowie à Lou Reed, il n'y a qu'un pas. On va le franchir.
Ouais, bien sûr, ouais.
Vous m'avez dit Lou Reed, vous collectionnez tout.
Ouais, alors je suis pas un grand consommateur de musique, hein, mais Lou Reed était très important pour moi. Son album Transformer, c'était quelque chose qui m'a
produit par Bowie.
Produit par Bowie, mais qui m'arrache le cœur complètement, que j'adore, que je peux écouter mille fois. Et c'est vrai que c'était le premier artiste où j'ai collectionné les 4 premiers albums. Et après, bon. c'était, je suis passé à autre chose, mais c'est rare pour moi, c'est vraiment rare, parce que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui collectionne, j'aime bien changer, mais lui, pour moi, c'est un artiste majeur, mais je me souviens d'avoir vu aussi en concert à Anvers, et c'était juste hallucinant, quoi. C'est vraiment un artiste incroyable, avec des chansons, je sais pas, ou Just a Perfect Day, ouais. c'est une des plus belles chansons du monde pour moi, enfin, c'est quelqu'un que j'aime vraiment énormément.
Et alors, ce qui est remarquable, c'est que et David Bowie et Lou Reed, c'est finalement peut-être les deux seuls artistes qui ont eu cette crédibilité auprès de toute la mouvance punk que vous avez bien connue. Ils étaient respectés alors que les autres, c'était des vieux cons.
Oui,
hein, comme ça.
Oui, c'est ça, mais eux vraiment, même si c'était loin...
Proxy Music un peu aussi, peut-être,
ouais. Oui, mais je dirais plus Bowie, Lou Reed, ouais. Et puis, moi, c'est drôle parce que... cette chance avec c'est Saplin qui m'a ouvert les portes vraiment sur l'international. Quand on parle de Lou Reed, il faut parler aussi du Velvet évidemment et d'Andy Warhol, des gens que j'ai rencontrés. Donc il y a vraiment, j'ai l'impression d'être chez moi. En fait, c'est rigolo parce que dans la musique, je pense que quand j'étais jeune, j'adorais la musique pop anglaise. Et puis un peu plus tard, tous les artistes que j'aimais étaient américains. Et surtout New-Yorkais, quoi. J'adorais l'ambiance new-yorkaise. Et c'est vraiment deux parties dans ma vie. D'abord, les groupes vraiment anglais, style The Kings, The Who, enfin, des gens comme ça. Et puis, toute la deuxième partie, c'était vraiment Bowie, Lou Reed, Velvet, John Cale, tout ça, c'était la deuxième partie de ma vie.
Radio Rectang, Soundtrack of My Life, notre invité, Plastic Bertrand. On écoute Lou Reed, Walk on the Wild Side, tiré de l'album Transformer, produit par David Bowie et Mick Ronson en 1972.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side, and the colored girls say, do 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 do.
Lou Reed, Walk on the Wild Side, on ne s'en lasse pas. Quelle émotion, quelle émotion. Voilà. Et puis dans un autre genre, il y a aussi beaucoup d'émotions dans ce morceau-là.
Viviamo, viviamo negli eti codici che la bellezza rifiora e là fuggevo, fuggevo ora si levi a voluta viviamo nei dolci freniti che sono usciti all'amore poiché quell'occhio al cuore ogni possente.
Et oui, Luciano Pavarotti, c'est un extrait de la Traviata, acte 1, qu'on a écouté, je ne suis pas spécialiste. Luciano Pavarotti, un artiste qui a ce pouvoir de vous arracher des larmes.
Ah ouais, il a une voix, mais complètement... C'est pas tellement son côté technique, moi, c'est son timbre de voix qui me touche terriblement. On écoutait la Traviata, mais si on écoute, je ne sais pas, Turandot... Nessun dorma, c'est que je ne peux pas résister. Quoi. Là, vraiment, je suis effondré complètement. Je suis tellement touché par la façon dont il interprète Puccini. C'est juste énorme. Et oui, je suis très sensible aux voix, alors que moi, je m'appelle pas un chanteur, je suis un performeur. Quoi. Mais par contre, les voix me touchent terriblement. Terriblement. Quoi. Et. Il n'y a pas que lui, hein. on parlera peut-être de quelqu'un d'autre plus tard, mais il y a des noms comme ça, il y a des voix qui me touchent, et puis c'est le son italien aussi. Quand je chante en italien, c'est la plus belle langue à chanter, c'est l'italien. C'est vraiment, le français, c'est presque barbare à chanter. L'anglais, c'est plus soft, mais l'italien, c'est fait pour la musique. C'est clair que c'est ça, la musique.
Mais il y a une histoire d'amour avec l'Italie. Vous avez
tout à fait. Moi,
cartonné là-bas.
J'ai vécu deux ans à Milan, donc, à côté de la Scala, d'ailleurs. Donc, je suis très, très sensible à ça. En fait, ce qui s'est passé ici, parce que on parle souvent des radios libres, mais quand les radios libres, entre guillemets, sont arrivées en France et en Belgique, moi... On m'a vraiment gentiment éjecté parce que je faisais partie des générations de l'avant Radio Libre. Ouais. Donc, j'étais pas le bienvenu sur les antennes des radios libres quand elles ont commencé à diffuser. Et le seul pays qui m'a accueilli, mais à bras ouverts, et où, dans lequel j'ai refait une carrière, mais pas seulement en tant que chanteur, mais j'ai fait des romans photos, j'ai fait de la télévision. Sur la Rai 2. Et ils m'ont accueilli comme vraiment, c'était extraordinaire. Et là-bas, vivre là-bas, pour moi, c'était une expérience formidable. Et il n'y avait pas ce problème de dictature des radios parce que je faisais partie déjà de la génération d'avant, parce que les radios libres étaient déjà installées depuis un long moment en Italie. Et moi, je suis arrivé vraiment sans problème là.
On va revenir en Belgique avec le maestro Stromae. Voilà, on vous a demandé quel était l'artiste belge de tous les temps, selon vous.
Alors, je sais que tout le monde s'attend à Brel, évidemment, parce que c'est un grand classique. Mais c'est vrai qu'on retrouve du Brel dans Stromae. Il y a cette gravité. Et moi, ce que j'aime, c'est cette gravité mélangée à cette façon de faire qui est joyeuse. Quoi. Donc, c'est très, très belge. C'est tellement belge, vraiment, ce côté profond et complètement léger quoi, que Stromae a. Et puis, musicalement, c'est tellement bien produit, c'est tellement intelligent. Lui, je trouve que c'est un mec fantastique. Vraiment, je trouve qu'il a une élégance. Enfin, pour moi, c'est un des tout grands artistes du monde.
Vous l'avez rencontré ?
Je le connais pas du tout. Je le connais pas du tout.
Ben voilà, Stromae, si
je le connais pas du tout, mais vraiment, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Mais je trouve vraiment qu'il a cette élégance. Et puis, encore une fois, cette gravité qui vraiment, qui, c'est pour ça que ça touche les gens, parce que il parle de choses terribles, mais sur des dehors très très légers. Donc il plombe pas l'atmosphère, mais il est puissant, il est raffiné, il est élégant. Il a toutes les qualités du monde.
Alors j'avais une question, parce que Stromae, il vient de nulle part, et avec Alors on danse, son premier single, il fait un carton. Vous, il y a eu l'effet, ça plane pour moi, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ce qu'on appelait le buzz à l'époque. Et vous passez sur toutes les radios françaises, sur toutes les télés, ça explose de partout. Vous êtes le seul Belge à l'époque qui fait ça et qui se retrouve finalement dans ce milieu du showbiz. Ouais. Comment on découvre, comment on vit, comment on gère ce succès?
On gère pas du tout.
Pas du tout.
On subit plus qu'autre chose. Ouais. On subit et puis c'est d'une violence infinie. Parce que on n'est pas prêt à ça. Et je dirais même que mon label ici, qui était le label de Roland Kluger, qui s'appelait RKM, n'est pas prêt à ça. Personne n'est prêt à ça, à cette fulgurance et vraiment ce carton mondial. On n'est pas prêt à ça, vraiment. Et en plus, ce qui m'a peut-être sauvé, mais ce qui m'a tué à la fois, c'est qu'il y avait pas, on faisait pas de clips non plus. Hein. Ouais. C'était pas l'époque des clips. On est en 77, on fait pas de clips. Pour que ça fonctionne au Japon, il faut aller au Japon. Pour que ça fonctionne aux États-Unis, il faut aller aux États-Unis.
Ouais.
Donc, ce qui a été terriblement, ce qui m'a tué, c'est de voyager autant. Mais ce qui m'a sauvé, c'est de rencontrer plein de gens. Et je sais pas si c'est possible encore aujourd'hui. Moi, je serais peut-être malheureux aujourd'hui si j'avais. Non, je serais heureux si j'avais un carton mondial, mais je serais peut-être malheureux de pas pouvoir vivre ces expériences de voyage et de rencontre avec les gens. Moi, je fais ce métier pour rencontrer les gens avant tout. Et rester chez moi et envoyer des clips comme ça, simplement, ça me passionne pas, quoi.
Stromae a connu quelques pépins de santé au bord de la dépression après Racine Carrée, la tournée.
Ouais.
Vous avez vécu ça?
J'ai vécu complètement, ouais. mais complètement. Moi, j'étais très, très, très mal. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est vraiment. Donc, on est en début des années 80, 83, 84 même, 84, 85. Je rentre chez moi et. Je suis pas bien du tout et ce qui me sauve, c'est que j'ai deux enfants qui regardent la télé et qui me regardent même pas, tellement je les intéresse pas, tellement que je suis fatigué, tellement que je suis chiant et je les intéresse pas, quoi. Et puis ils préfèrent me voir moi. En plus, ils regardent la télé quand je rentre. Ils regardent qui? Ils regardent le Placide Bertrand qu'ils aiment, qui bouge, qui a la pêche. Il y a un décalage entre les deux. Et là, je me suis dit que là, c'était la fin de tout. Alors, mes enfants qui préféraient cette image de télé plutôt que le vrai, je me dis, là, il est temps que je fasse quelque chose. Et là, je m'arrête. Et là, j'ai fait un break terrible. J'ai commencé à respirer de nouveau et à vouloir faire ce métier différent. Parce que j'aime ce métier, mais le faire différemment. Quoi. Mais c'est mes enfants qui m'ont sauvé parce que j'étais dans un état vraiment lamentable.
Stromae, Papa Outé.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables?
serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Et où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Et... Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
I'm blinded by
Après Stromae et Papa Outé, c'était The Weeknd Radio Rectangle avec notre invité Plastic Bertrand. Le morceau Blinding Lines, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, mais quand on vous a posé la question, Plastic Bertrand, dernier artiste téléchargé, c'était The Weeknd sans hésitation. Pourquoi ?
Parce que je suis admiratif de l'écriture, de la production. C'est d'une finesse totale. Il y a quelque chose dans mon dernier album de ça aussi. On a cherché à pas ressembler, mais à avoir ce côté très très léger. Et lui, c'est vraiment remarquable. Et puis moi, j'aime aussi et ça rejoint encore mon album, son côté aussi tout ce qu'il a fait avec Daft Punk. Quoi. Donc on est en plein dans le même trip, mais en prenant des chemins différents. Mais c'était vraiment la musique que j'avais envie d'entendre quand on a enregistré l'album L'expérience humaine.
Mais c'est vraiment ça, en fait, parce qu'il y a de l'électro, il y a Imagination sur votre album.
The
Weeknd, c'est ça aussi. Il mélange les musiques urbaines avec de l'électro. Et certains puristes de la musique urbaine nous disent « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec de l'électro, des petits Français ?»
C'est vraiment ce que j'aime. C'est quand on mélange les choses et qu'on ne soit pas dans des cases. Je pense que la musique est ce qui donne envie de faire la musique, c'est justement ce mélange, quoi. Qu'on ne reste pas dans sa case, qu'on cherche. Comme Queen l'a fait aussi avec Bohemian Rhapsody, en faisant un peu d'opéra, en mélangeant complètement les choses, comme Bowie l'a fait aussi. Enfin, je pense que la musique, c'est ça, quoi, c'est un langage universel. Alors allons piocher à gauche, à droite, et surtout restons pas bloqués dans un truc.
On arrive tout doucement à la fin de ce Soundtrack of My Life. Avec tout ce que vous avez vécu, Plastic, avec tout ce que vous vivez aujourd'hui, et là, dans les semaines qui suivent avec votre tournée, est-ce qu'il y a encore un rêve artistique que vous rêvez de concrétiser ?
Moi, j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter.
Tant mieux.
Mais peut-être qu'on va m'arrêter. Moi, je me dis que tant qu'il y a des gens qui viennent voir mes spectacles et qui me téléchargent, je me dis que ça sert à quelque chose. J'aime bien cette idée de chanter utile. La meilleure preuve avec ce spectacle dont on parlait pour l'Ukraine, chanter utile, c'est ça aussi. C'est pouvoir avoir cette notoriété qui permet de faire des choses différentes. Mais oui, j'ai encore plein de... J'ai l'impression d'avoir, très honnêtement, et c'est pas la fausse modestie, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Juste m'amuser. J'ai pas l'impression d'avoir fait un truc important. J'ai l'impression d'avoir fait de la musique et de m'être amusé avec mes potes musiciens. Et tant que j'aurai ça, je vais continuer, c'est clair.
Ben, il faut que ça continue comme ça. Alors, nous, on va conclure ce podcast. Et pour boucler la boucle, on avait commencé avec Mes Jours, extrait de votre dernier album, L'Expérience Humaine. On va remonter dans le temps en évoquant Hubble Bubble, groupe cultissime au milieu des années 70. Des bons, des mauvais souvenirs ?
Très bons souvenirs. Ouais. Très, très bons souvenirs parce qu'il y avait un milieu punk à Bruxelles. Et on avait fait des concerts incroyables. Et on tournait beaucoup et on en a fait un concert mémorable qui était à Front National, un club qui s'appelle le Rocking Club. Et où j'ai rencontré la première fois Gilles Verlan qui m'a interviewé. Et puis, moi, j'adorais ça parce que parmi les punks, c'était notre groupe, c'était Hubble Bubble, parce qu'on était les méchants, parce que c'était très violent ce qu'on faisait, quoi, sur scène. Mais on s'amusait comme des fous, vraiment, c'est une aventure incroyable. Et puis cet album, il a une très belle vie finalement, parce qu'il continue à être réédité, même il n'y a pas longtemps au Japon. Et puis il y a des rééditions qui se font. Non, c'était un très 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 bon souvenir.
Alors, quand on vous a posé la question, si je dois faire écouter un album à celui qui ne me connaît pas encore, vous avez dit c'est soit L'Expérience Humaine, le dernier, soit Hubble Bubble. Ma dernière question, le Plastic Bertrand de 2022, qu'est-ce qu'il garde encore en lui de Hubble Bubble ? Qu'est-ce qu'il y a encore de punk chez vous aujourd'hui ?
Tout, ma façon de vivre, ma façon de dire les choses, ma façon d'être différent dans ce métier. Je connais bien ce métier, mais je n'ai pas l'impression d'avoir... d'obéir au dictat de ce métier. Donc je fais ce métier comme un artisan, à ma façon, même si je connais les règles. Je pense que je serai toujours différent. D'ailleurs, il n'y a pas de case pour moi et ça me rend très très fier, ça.
Vous pouvez être fier. Merci Plastic. Luc. On va se quitter avec le fleuron de notre soundbug. Hubble Bubble, c'était le single New Promotion en 78 avec un certain Roger Jouret à la batterie.